Chapitre 22. Aimez-vous cela? Dit la maman Carex. Pour vous changer, j'ai mis le pot-au-feu hier et gardé le bœuf, de sorte que ce soir, vous aurez un bouillon au vermicelle, une salade de viande froide avec des harengs sorts et du céleri, une bonne purée de pommes de terre au fromage et du dessert. Et puis vous goûterez le nouveau cidre que nous avons reçu. Oh ! S'exclamèrent des Hermès et Durtal qui savouraient, en attendant le repas, un petit verre d'élixir de longue vie. Savez-vous, madame Carex, que votre cuisine nous induit au péché de gourmandise ? Pour peu que cela dure, nous allons devenir des ventricoles et des gamaches. Vous voulez rire ? Mais que c'est donc ennuyeux, lui qui ne revient pas. On monte, fit Durtal, qui entendait crier des semelles sur les marches en pierre de la tour. Non, ce n'est point lui, reprit-elle en ouvrant la porte. C'est le pas de M. Gévinger. Et, en effet, vêtu de son caban bleu, coiffé de son chapeau mou, l'astrologue entra, salua comme au théâtre, froissa contre les bijoux de ses grosses pattes les doigts des assistants et demanda des nouvelles du sonneur. Il est chez le charpentier. Les sommiers de chêne qui soutiennent les grosses cloches se sont fendus, si bien que Louis a peur qu'il ne s'effondre. Diantre! A-t-on des nouvelles de l'élection? Dit Gévinger, et il tira sa pipe et souffla dedans. Non, dans ce quartier, l'on ne connaîtra les résultats du scrutin que ce soir, vers les 10 heures. Du reste, les votes ne sont point douteux, car Paris bat la breloque. Le général Boulanger passera haut la main, cela est sûr. Un proverbe du Moyen-Âge affirme que lorsque les fèves fleurissent, les fous se montrent. Ce n'est cependant pas l'époque. Carex entra, s'excusa de son retard, et tandis que sa femme apportait la soupe, il chaussa ses galoches et répondit à ses amis qui le questionnaient. Oui, l'humidité a rongé les frettes de fer et pourri le bois. Les poutres font ventre et il est temps que le charpentier intervienne. Enfin, il m'a promis qu'il serait ici sans faute demain avec ses hommes. C'est égal, je suis content d'être rentré. Dans les rues, tout me tourne. Je suis hébété, incertain, ivre. Je n'ai jamais vraiment mes aises que dans mon clocher ou dans cette chambre. Tiens, soumets-moi cela, ma femme. Et il empoigna pour la remuer la salade de céleri, de hareng et de bœuf. Quelle fumée ! S'écria Durtal, en humant l'odeur incisive du hareng. Ce que ce parfum suggère, cela m'évoque la vision d'une cheminée à hôte dans laquelle des sarments de genévrier pétillent en un rez-de-chaussée dont la porte s'ouvre sur un grand port. Il me semble qu'il y a comme un halo de goudron et d'algues salées autour de ces ors fumés et de ces rouilles sèches. C'est exquis, reprit-il, en goûtant à cette salade. On vous en refera, monsieur Durtal. Vous n'êtes pas difficile à régaler, dit la femme de Carex. Hélas, fit le mari en souriant, il est de corps facile à satisfaire, mesdames, quand je songe à ces désespérants aphorismes de l'autre soir. Nous prions cependant pour que Dieu l'éclaire. Tiens, dit-il soudain à sa femme, nous invoquerons saint Nolasque et saint Théodule, que l'on représente toujours avec des cloches. Ils sont un peu de la partie et ils se feront certainement les intercesseurs de gens qui les révèrent, eux et leurs emblèmes. Il faudrait de fiers miracles pour convaincre Durtal, fit des Hermiès. Les cloches en ont pourtant suscité, proféra l'astrologue. Je me rappelle avoir lu, je ne sais plus où, que les anges sonnèrent le glas, au moment où saint Isidore, de Madrid, mourait. Et il y en a bien d'autres, s'écria le sonneur. Les cloches ont carillonné toutes seules lorsque saint Sigisbert chantait le De Profundis sur le cadavre du martyr Placide. Et quand le corps de saint Ennemond, l'évêque de Lyon, fut jeté par ses meurtriers dans un bateau sans rameur et sans voile, elles retentirent également, sans que personne les mît en branle au passage de l'embarcation qui descendait la Saône. « Savez-vous à quoi je pense ?» dit des Hermiès qui regardait Carex. « Je pense que vous devriez travailler un compendieux recueil d'agiographie ou préparer un savant in-folio sur le blason. « Pourquoi cela ?» Mais parce que vous êtes, Dieu merci, si loin de votre époque, si fervent des choses qu'elle ignore ou qu'elle exècre, que cela vous exaucerait encore. Vous êtes, bon ami, l'homme à jamais inintelligible pour les générations qui viennent. Sonner les cloches en les adorant et se livrer aux besognes désuètes de l'art féodal ou à des labeurs monastiques de vie de saint, ce serait complet, si bien hors de Paris, si bien dans les là-bas, si loin, dans les vieux âges. « Hélas, dit Carex, je ne suis qu'un pauvre homme, et je ne sais rien. Mais ce type que vous rêvez existe. En Suisse, je crois, un accordant collige depuis des années un mémorial héraldique. Reste à savoir, par exemple, reprit-il en riant, si l'une de ses occupations ne nuit pas à l'autre. Et le métier d'astrologue, pensez-vous donc qu'il ne soit pas encore plus décrié, plus aboli, dit Gévinger avec amertume. « Voyons, et notre cidre, comment le trouvez-vous ? » demanda la femme du sonneur. « Il est un peu vert, hein ?»« Non, il est de saveur gamine, mais de lampée franche, » répondit Durtal. « Ma femme, serre la purée sans m'attendre. Je vous ai mis en retard avec mes courses, et l'heure de l'Angélus est proche. Ne vous occupez pas de moi, mangez, je vous rattraperai en descendant. » Et pendant que son mari allumait sa lanterne et quittait la pièce, la femme apporta dans un plat une sorte de gâteau couvert d'une croûte tachetée de caramel et glacée d'or. « Oh !» fit Gévinger, « mais ce n'est pas de la purée de pommes de terre. » « Si, seulement le dessus a été gratiné au four de campagne. Goûtez-la, j'ai mis tout ce qu'il faut dedans, elle doit être bonne. » Le fait est qu'elle était savoureuse et qu'ils l'acclamèrent. Puis ils se turent, car il devenait impossible de s'entendre. Ce soir-là, la cloche bombait, plus puissante et plus claire. Durtal cherchait à analyser ce bruit qui semblait faire tanguer la chambre. Il y avait comme une sorte de flux et de reflux de sons. D'abord, le choc formidable du battant contre les reins du vase, ensuite une sorte d'écrasement de sons qui se diffusait, finement pilé, en rotondant. Enfin, le retour du battant, dont le nouveau coup ajoutait dans le mortier de bronze d'autres ondes sonores qu'il broyait et rejetait, dispersées dans la tour. Puis ses volets s'espacèrent, et ce ne fut plus bientôt que le ronronnement d'un énorme rouet. Quelques gouttes restèrent plus lentes à tomber, et Carex rentra. « Quel temps biscornu !» fit Gévinger pensif. « On ne croit plus à rien et l'on gobe tout. On invente chaque matin une science neuve. » À l'heure actuelle, c'est cette lapalissade qu'on nomme la pédagogie qui trône, et personne ne nie plus cet admirable Paracelse qui a tout trouvé et qui a tout créé. Dites donc, aujourd'hui, à vos congrès de savants, que selon ce grand maître, la vie est une goutte de l'essence des astres, que chacun de nos organes correspond à une planète et en dépend, que nous sommes par conséquent un abrégé de la sphère divine. Dites-leur donc. Et cela, l'expérience l'atteste, que tout homme né sous le signe de Saturne est mélancolique et pituiteux, taciturne et solitaire, pauvre et vain, que cet astre lourd, tardif en ses empreintes, prédispose aux superstitions et aux fraudes, qu'il préside aux épilepsies et aux varices, aux hémorroïdes et aux lèpres, qu'il est hélas le grand pourvoyeur des hospices et des bagnes. Ils se gaudiront, ils lèveront les épaules, ces ânes assermentés, ces glorieux cuistres. Oui, fit Des Hermies, Paracelse fut un des plus extraordinaires patriciens de la médecine occulte. Il connaissait les mystères maintenant oubliés du sang, les effets médicaux encore inconnus de la lumière, confessant ainsi que les kabbalistes du reste que l'être humain est composé de trois parties, d'un corps matériel, d'une âme et d'un périsprit, appelé aussi corps astral. Il soignait ce dernier surtout, et réagissait sur l'enveloppe extérieure et charnelle, par des procédés qui sont ou incompréhensibles ou déchus. Il traitait les blessures en soignant non pas les tissus, mais le sang qui en sortait. On assure même qu'il guérissait certains maux. Grâce à ses profondes connaissances en astrologie, dit Gévinger. Mais, demanda Durtal, si l'influence sidérale est si nécessaire à étudier, pourquoi ne faites-vous pas d'élèves ? Des élèves ? Mais où dénicher des gens qui consentent à travailler pendant 20 années, sans profit et sans gloire ? Car avant d'être en mesure d'établir un horoscope, il faut être un astronome de première force, savoir les mathématiques à fond et avoir longuement pâli sur l'obscur latin des vieux maîtres. Et puis il faut aussi la vocation et la foi, et c'est perdu. Comme pour les accordants, dit Carex. Non, voyez-vous, messieurs, reprit Gévinger. Le jour où les grandes sciences du Moyen-Âge ont sombré dans l'indifférence systématique et hostile d'un peuple impie, ça a été la fin de l'âme, en France. Il ne nous reste plus maintenant qu'à nous croiser les bras et à écouter les insipides propos d'une société qui tour à tour rigole et grogne. Allons, il ne faut pas désespérer ainsi, ça ira mieux, dit la maman Carex d'un ton conciliant, et avant de se retirer, elle donna une poignée de main à chacun de ses hôtes. Le peuple fit des Hermès en versant de l'eau dans la cafetière, au lieu de l'améliorer, les siècles l'avarie, le prostre, la bêtise. Rappelez-vous le siège, la commune, les engouements irraisonnés, les haines tumultuaires et sans cause, toute la démence d'une populace mal nourrie, trop désaltérée et en armes. Elle ne vaut tout de même pas la naïve et miséricordieuse plèbe du Moyen-Âge. Raconte donc, Durtal, ce que fit le peuple alors que Gilderi fut conduit au bûcher. « Oui, dites-nous cela, » demanda Carex, ses gros yeux noyés dans de la fumée de pipe. « Eh bien, vous le savez, à la suite de forfaits inouïs, le maréchal de Ré fut condamné à être pendu et brûlé vif. Ramené après le jugement dans sa geôle, il adressa une dernière supplique à l'évêque Jean de Malestroit. Il le pria d'intercéder auprès des pères et mères des enfants qu'il avait si férocement violés et mis à mort, pour qu'ils voulussent bien l'assister dans son supplice. » Et ce peuple, dont il avait émaché et craché le cœur, sanglota de pitié. Il ne vit plus en ce seigneur démoniaque qu'un pauvre homme qui pleurait ses crimes et allait affronter l'effrayante colère de la Sainte Face. Et le jour de l'exécution, dès 9 heures du matin, il parcourut en une longue procession la ville. Il chanta des psaumes dans les rues, s'engagea par serment dans les églises, à jeûner pendant 3 jours. Afin de tenter d'assurer par ce moyen le repos de l'âme du maréchal. Nous sommes loin, comme vous voyez, de la loi américaine du lynch, dit Deshermies. Puis, reprit Durtal, à 11 heures, il vint chercher Gilderay à sa prison et il l'accompagna jusqu'à la prairie de la Biesse, où se dressaient surmontés de potences de hauts bûchers. Le maréchal soutenait ses complices, les embrassait, les adjurait d'avoir grande déplaisance et contrition de leurs méfaits. Et, se frappant la poitrine, il suppliait la Vierge de les épargner, tandis que le clergé, les paysans, le peuple, psalmodiaient les sinistres et implorantes strophes de la prose des trépassés. Nos timemus diem judici, quia mali et nobis concii, sed tu mater summi concili. Para nobis locum refugii, ô Maria, tunc iratus, iudex. Vive Boulanger! Dans un bruit de mer montant de la place Saint-Sulpice à la tour, de longs cris jaillirent. Boulange, l'ange! Puis une voix enrouée, énorme, une voix d'écaillère, de pousseur de charrette, s'entendit par-dessus les autres, domina tous les hurrahs et de nouveau elle hurla. Vive Boulanger! Ce sont les résultats de l'élection que devant la mairie ces gens vocifèrent, dit dédaigneusement Carex. Tous se regardèrent. Le peuple d'aujourd'hui, fit Deshermies. Ah, il n'acclamerait pas de la sorte un savant, un artiste, voire même l'être supernaturel que serait un saint, gronda Gévinger. Et il le faisait pourtant au Moyen-Âge. Oui, mais il était plus naïf et moins bête, reprit Deshermies. Et puis, où sont les saints qui le sauvèrent? On ne saurait trop le répéter, les soutaniers ont maintenu des cœurs lézardés, des âmes dysentériques, des cerveaux qui se débraillent et qui fuient. Ou alors c'est encore pis, ils phosphorent comme des pourritures, égarent le troupeau qu'ils gardent, ils sont des chanoines d'ocre, ils satanisent. Dire que ce siècle de positivistes est daté à tout renverser, sauf le satanisme, qu'il n'a pu faire reculer d'un pas. « Cela s'explique, s'écria Carex, le satanisme est ou omis ou inconnu. C'est le père Avignon qui a démontré, je crois, que la plus grande force du diable, c'était d'être parvenu à se faire nier. « Mon Dieu, quelle trombe d'ordure souffle à l'horizon !» murmura tristement Durtal. « Non, s'exclama Carex, non, ne dites point cela, ici-bas tout est décomposé, tout est mort, mais là-haut, ah, je l'avoue. L'effusion de l'Esprit-Saint, la venue du divin Paraclet se fait attendre. Mais les textes qu'il annonce sont inspirés. L'avenir est donc crédité, l'aube sera claire. Et les yeux baissés, les mains jointes, ardemment, il pria. Deshermies se leva et fit quelques pas dans la pièce. « Tout cela est fort bien, grogna-t-il, Mais ce siècle se fiche absolument du Christ en gloire. Il contamine le surnaturel et vomit l'au-delà. Alors comment espérer en l'avenir? Comment s'imaginer qu'ils seront propres les gosses issus des fétides bourgeois de ce sale temps? Élevés de la sorte, je me demande ce qu'ils feront dans la vie, ceux-là. Ils feront comme leur père, comme leur mère, répondit Durtal. Ils s'empliront les tripes et ils se vidangeront l'âme par le bas-ventre.